Vous êtes sur RTL.
Balade gourmande sur RTL.
Avec Louana Belmondo et Jean-Sébastien Petit-Demange.
Nous irons à Vérone, un beau jour tous les deux. Au balcon qui connut Roméo et Juliette.
Comme ça, grâce au grand Charles, le décor est planté. Jean-Sébastien, Louana, il y a trois guides du routard à gagner tout à l'heure au 32-10, bien sûr. Vérone, aujourd'hui, ville de Roméo et Juliette. Et bien sûr, c'est à l'occasion de la Saint-Valentin qui est fixée à vendredi prochain.
Vérone, c'est en Vénétie, une des régions les plus prospères d'Italie. Vous l'avez dit, Stéphane, Charles aussi, la réputation de Vérone repose sur l'histoire tragique de Roméo et Juliette. Alors tout le monde la connaît, mais si je vous demande l'auteur, vous allez me répondre forcément Shakespeare.
Logique, non ?
Alors, c'est sa pièce qui a fait connaître l'histoire dans le monde entier, qui continue à entretenir la réputation de Vérone. Mais d'abord, comme on le croit souvent, ce n'est pas une histoire vraie. Certes, les Montaigu de Vérone et les Capulet de Crémone se détestaient. Mais ça, c'était dans la Divine Comédie de Dante. C'est devenu une histoire d'amour tragique sous la plume de Luigi da Porto en 1530. Et Shakespeare l'adapta autour de 1595. Et puis ensuite, Berlioz, Baz Luhrmann, de West Side Story à Shakespeare in Love... L'histoire a été revue mille fois, mais Vérone reste une ville unique. Elle se love dans un méandre du fleuve Adige et elle livre de magnifiques monuments, à la fois romains, médiévaux et renaissance. Et tout cela forme un héritage unique à découvrir. Et pourtant, tout le monde va d'abord voir Vérone pour une imposture.
Forcément, c'est un rapport avec Roméo et Juliette.
Avec Juliette, puisqu'il s'agit de sa maison, la maison de la famille Capulet. Il y a même le balcon, alors qu'il a été ajouté en 1929. Hein. N'empêche, le plus intéressant reste les amoureux transis qui se tiennent la main avant d'accéder à ce balcon pour faire la photo. Puis dans la cour, il y a la statue de Juliette qui veille sur tous les amours à condition de lui toucher le sein droit, qui du coup est plutôt patiné. Le plus beau est néanmoins ailleurs.
Qu'est-ce qui est immanquable à Vérone ?
L'œil. De Vérone d'abord. Les arènes qui datent du 1er siècle de notre ère. Vous imaginez qu'elles pouvaient accueillir près de 25 000 spectateurs. Elles ont été tellement bien préservées qu'elles sont les mieux conservées de toutes les arènes romaines. C'est là que se tient le fameux festival des arènes de Vérone en été. Alors ensuite, il faut plonger dans le musée du Castel Vecchio, le château vieux construit au milieu du 14e qui abrite un musée d'art possédant des peintures et des sculptures qui couvrent du 13e au 17e siècle. Autre passage obligé, la basilique de San Zeno, un des chefs-d'œuvre de l'art roman en Italie. À l'intérieur, vous avez des portes de bronze sur lesquelles on raconte toute la vie de Jésus dans une sorte de BD en relief. Les fresques font frissonner. Le triptyque de Mantegna au-dessus de l'autel pourrait faire croire un athée convaincu. Et la crypte renfermant la dépouille de San Zeno vous transporte quelques minutes comme si vous étiez dans un film fantastique. Pour aller d'un lieu à l'autre, la balade à travers les rues et les ruelles de Vérone offre toute l'Italie, avec des cafés, des trattoria, des églises, des palazzo qui apparaissent en un instant après avoir traversé une place pleine de couleurs sur laquelle on découvre la statue de Dante, comme sur la Piazza dei Signori, ou celle du lion de Venise, veillant sur la ville du haut de sa colonne sur la place dell'Erbe.
Et j'espère, Jean-Sébastien, que vous avez un restaurant romantique.
Et un vrai coup de cœur, la Trattoria al Pompiere. Les murs sont couverts de belles photos en noir et blanc. Les tables sont recouvertes de nappes à carreaux et on s'y régale. De tagliatelle aux champignons sauvages, d'un risotto aux pigeons ou d'un foie de veau à la vénitienne. Recette plus que bouleversante, mais pas autant que le millefeuille au mascarpone qui est un truc de malade. Et ça me donne envie de dire à Louana, nous irons à Vérone, un beau jour tous les deux, impatients, recueillis, comme deux fous de gosses.
En voyage d'amour.
On pourrait presque chanter, hein.
Ah oui, complètement. Mais bah, alors, Jean-Sébastien, mais oui, vous m'aviez complètement déstabilisé. J'ai pensé être la mieux placée pour parler de la Saint-Valentin. Mais là, je suis à la fois à Vérone, la Vérone des amoureux. Et puis, il y a aussi Venise. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux vous amener, la ville aussi de la séduction. Mmh. Mais ce que je connais le mieux, c'est Rome, la capitale de la Dolce Vita.
Alors du coup, vous allez nous proposer une recette, alors que d'habitude, le 14 février, Saint-Valentin, on s'invite au resto.
Alors là, Stéphane, personnellement, le jour de la Saint-Valentin, je n'aime pas aller au restaurant, car en général, c'est hors de prix. Le menu est imposé et il y a de fortes chances que vous allez vous retrouver coude à coude avec vos voisins de palier ou encore pire avec votre ex. Donc, je vais vous proposer de rester chez vous, de concocter un bon menu simple mais savoureux qui va permettre à vous, mais aussi à la femme, de profiter de la soirée, car la Saint-Valentin s'est faite à deux.
Alors, on a un menu entier, s'il vous plaît, ce matin. Ça commence par des gambas sautées à la mangue.
Oui, alors c'est des gambas qui sont crues, qui sont revenues avec du curry, du gingembre. Gingembre, aphrodisiaque, ouais. Pour la Saint-Valentin, on en a besoin. Il y a un peu d'ail, personne ne le sait, tout le monde va dire, ça sent mauvais. Alors déjà, on le mange en deux, et c'est un aphrodisiaque aussi. Et donc après cette belle entrée très très facile à faire, on continue avec des côtelettes d'agneau croustillantes et une salade de fenouil et orange. Alors déjà, on peut préparer les côtelettes avec une panure que j'adore, avec des zestes d'orange, des amandes et des pistaches mixées, donc ça change de la chapelure normale. Vous pouvez les préparer en avance et les garder au chaud dans un four à 40 degrés. Comme ça, vous profitez de votre entrée. Et puis, on termine avec la douceur, avec un moelleux au chocolat. Et là, encore une fois, on va mettre un peu de piment. On met des piments d'Espelette en poudre. Ça aussi, on peut le préparer en avance. On le met au frigo. Et au moment les dernières minutes, il a besoin que des 10 minutes de cuisson à 150 degrés, vous allez le mettre au four et vous allez profiter de votre soirée.
150 degrés pendant 10 minutes, c'est ça?
Oui.
C'est ultra simple, ouais, c'est
hyper rapide, hyper simple.
Mais bien sûr, il faut profiter de la Saint-Valentin,
ouais, des fleurs. On va se régaler. On vous met tout ça sur la page Facebook.
On a les recettes sur la page. Merci Valérie.
Les trois, s'il vous plaît. Gambas sautées à la mangue, les côtelettes d'agneau croustillantes, salade de fenouil et orange, et puis le moelleux au chocolat et au piment. Et tout ça est très très chaud, évidemment. Et là, je parle du gingembre et compagnie. Merci Louana. On a une petite question pour décrocher trois guides du routard ce matin. Encore Jean-Sébastien, on vous écoute.
En 1986, Baz Luhrmann réalise Roméo plus Juliette. C'est Claire Danes qui tient le rôle de Juliette. Qui est son Roméo?
Ouais, hyper.
Oh, qu'il est beau.
Ouais, ah. Sentiment de Loana.
Bah, écoutez, c'était un enfant à l'époque.
À l'époque, c'était un très très jeune quand même. Hein.
Ah, mais je le préfère aujourd'hui en fait.
Ah, ouais, c'est ça.
Moi,
ah,
j'aime les hommes mûrs.
3210, vous avez l'acteur américain au bout de la langue, vous nous appelez. 3210, le standard est ouvert. Et on vous offre un guide du routard ce matin. Réponse tout à l'heure avec Jean-Sébastien Petit-Demange.